12e enregistrement. Suite du chapitre 5, En route vers le ciel. Lecture de la dernière phrase de l'enregistrement précédent. Les sentiments humains doivent être mis en second plan, mais si nous affrontons cet immense défi par nous-mêmes, alors nous sommes condamnés à une vie de frustration au cours de laquelle, comme un arc-en-ciel magnifique qu'on voit mais qu'on ne peut jamais atteindre, les lois divines nous semblent irréalisables, transforment nos rêves en mirages et nous mènent à un tel découragement que nous avons envie de tout abandonner. Selon le temps terrestre, ce qui suit se passa probablement un peu avant l'année 4 avant Jésus-Christ, mais n'a pas eu lieu sur cette terre. Cela s'est passé dans le cosmos, à des milliards d'années-lumière, probablement au centre de l'univers. Deux êtres conversés, deux êtres puissants, desquels coulait un flot de lumière sans fin, comme si l'amour commençait là et partait vers la création. Ils coexistaient, ils avaient la vie en eux et ils n'étaient limités ni par le temps ni par l'espace. Chacun d'entre eux possédait le pouvoir de création. Cependant, lorsque l'un d'entre eux prit la parole, ses mots résonnèrent étrangement comme des mots humains. Il abandonnait une partie de lui-même. Il soumettait sa volonté à celle du second. Toute cette histoire étrange se retrouve dans la Bible en deux endroits, au psaume 40 et dans Hébreux 10. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Autrement dit, on entend là la dernière conversation entre le Père et le Fils avant que ce dernier quitte l'infini et vienne s'incarner dans une cellule humaine. Le temps était venu, c'était le moment des adieux, et il continua par ces mots si profonds de sens que l'esprit humain s'incline devant eux. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Pour faire ta volonté, la divinité infinie cédait une partie d'elle-même. Une des trois personnes de la Trinité se soumettait à une autre. Lorsqu'elle affronterait le péché, ce ne serait pas avec sa propre puissance. Le Fils allait accomplir la volonté de son Père. 9 mois terrestres se passent et la première sensation qu'il ressent sur terre vient probablement de la paille qui traverse la petite couverture qui l'enveloppe dans une crèche à Bethléem. Il y a des sensations bizarres. Lorsque le ciel s'assombrit, l'air se rafraîchit dans l'étable et une lampe à lueur vacillante est allumée. De temps en temps, des formes bizarres se penchent au bord de la mangeoire. Quelques humbles hommes aux mains graisseuses en vêtements de laine et quelques autres couverts de vêtements précieux et dont le visage reflète un étrange mélange de respect et de curiosité. Une nuit, il ressent un grand émoi. La petite famille se lève brusquement dans l'obscurité du petit matin et se met en route vers le plat pays, au grand fleuve et aux étranges monts de pierre. Jésus, la majesté du ciel, est élevé en un simple petit garçon. Et il ne pêche en aucune occasion. Pourquoi ? Il y a plus que la bonne influence de son foyer ou d'une mère au caractère divin. Beaucoup plus. Le mystère du salut est en train de se dérouler. Le même salut par lequel ses enfants seront vainqueurs. Il ne pêche pas parce qu'il a soumis sa volonté à celle de son Père céleste, aimant. Que ta volonté soit faite, aux heures les plus dures de son passage sur cette terre, il ne faillit jamais à ce principe. Et c'est ainsi qu'il vécut, sans péché. 30 années s'écoulent, et il commence à prêcher, pas avec des sermons pompeux, mais avec des histoires toutes simples, tirées de la vie de tous les jours, qui touchent les cœurs et se gravent dans les esprits. Dans le temple de Jérusalem, on entend 3 positions sur certains sujets. Certains affirment que la résurrection existe, d'autres disent que non. Quant aux autres, ils ne sont sûrs de savoir qui a raison. Des hommes savants, en tunique d'Alexandrie, argumentent en mots compliqués à chaque coin de rue sur des sujets qui n'existent même pas, tandis que le peuple de Dieu a soif de connaître la simple vérité. Et d'un seul coup, un simple rabbin de Galilée se met à parler du salut en termes qui touchent les cœurs, et les gens viennent l'écouter par milliers. Parmi la foule se trouve un pharisien, homme de la loi juive, qui pressent qu'il y a là une réponse au problème insoluble. Une nuit, il va trouver le Seigneur et l'interroge sur la vie éternelle. Jésus va toujours droit au cœur du problème des gens. « Nicodème, ton problème est simplement que tu es venu dans ce monde de la mauvaise manière. Tu es né avec l'héritage d'Adam et Ève, qui ont essayé de tirer du système plus que ce qu'ils pouvaient y apporter. Reviens en arrière et entre de nouveau dans ce monde comme je l'ai fait, en soumettant ton moi complètement à la volonté de ton Père qui t'aime. C'est un nouveau commencement. Il est si parfait qu'on peut l'appeler nouvelle naissance. » Nicodème connaît parfaitement la loi. Il est habitué aux argumentations et il voit un défaut dans le raisonnement du Christ. Retourner en arrière? Comment peut-on revenir en arrière? Toute notre vie n'est qu'une longue série de décisions qui restreignent peu à peu nos choix, si bien que notre avenir est souvent conditionné par nos erreurs passées. Que faire de mon triste passé? Comment puis-je recommencer tout à zéro? La réponse de Jésus se trouve dans Jean 3,16, grâce à l'Évangile. C'est la vérité proclamée par le troisième ange. C'est l'adventisme. C'est tout ce qui fait la nature du chrétien. Nicodème, voilà pourquoi je suis ici. J'ai la meilleure affaire du monde à te proposer. Donne-moi ton passé et je te donnerai le mien. Ainsi tu seras libre et ton passé ne pourra plus te tourmenter. C'est un recommencement si parfait que par cette fois Marie-Madeleine chuta et se releva et son passé ne peut plus l'accuser. C'est la pleine assurance qui mène à une obéissance qui vient de l'amour et non du légalisme. Une autre étape essentielle pour vaincre le péché consiste simplement à capituler. Et cela nous amène à l'une des questions les plus pratiques pour un chrétien. Comment dans la vie pratique quotidienne peut-on céder devant Dieu? Le monde est plein de chrétiens qui, chacun à leur façon, utilisent les mots céder, soumettre, demander à n'importe quel chrétien ce qu'il entend par là, et il vous répondra soumettre son cœur à Dieu. Mais qu'entend-on par là? Comment peut-on y parvenir? Une fois de plus, je pense que l'adventisme donne la réponse la plus claire possible, et ce, pour une raison simple. L'adventisme accepte la loi de Dieu dans tout son ensemble, sans essayer de réécrire le quatrième commandement pour s'adapter à la tradition ou à la vie pratique. Ne vous conformez pas à ce qui vous vient d'être dit, et tout ce que vous pourrez dire ensuite sur la soumission sera nul et non avenu. Vous aurez refusé de vous soumettre au point essentiel qui reconnaît à Dieu sa souveraineté. Et en introduisant cette réserve dans votre théologie, vous n'êtes plus en droit de parler de soumission. L'adventisme offre encore une autre réponse claire à un problème pratique chez les chrétiens. Dans la vie quotidienne, la soumission s'effectue par l'acceptation aveugle de la volonté de Dieu, même si cela nous coûte. Même si sa demande ne nous paraît pas du domaine de la raison humaine et si la règle paraît arbitraire. Par exemple, un jour de culte particulier ou même un arbre en Éden. Nous obéissons même si nous ne pouvons pas comprendre pourquoi. Ainsi, par l'acceptation inconditionnelle de sa loi, nous soumettons réellement notre volonté. De cette manière, Satan ne dispose plus de l'arme qui nous pousse au péché. La vraie religion a quelque chose à voir avec la volonté, écrivit Ellen White. Elle poursuit en disant qu'à la chute, la volonté humaine fut laissée au contrôle de Satan. Par la transgression de l'homme, une force étrangère s'est emparée légalement de la volonté, siège de toutes les décisions concernant notre conduite. Sans l'intervention divine, la race humaine serait une race d'esclaves. Ce point, dit-elle, fut l'un des enjeux majeurs au calvaire. Christ est mort pour racheter la volonté de l'homme, et c'est grâce à la volonté que l'on pêche ou que l'on vainc. Consultez l'index des écrits d'Ellen White, et vous serez étonné de voir le nombre de sujets en rapport avec la volonté. Céder à la tentation est un acte volontaire. Les anges sont incapables de contrôler notre volonté contre nous-mêmes. Même une transfusion sanguine dépend de notre volonté. Choisir de vivre ou mourir est régi par cette mystérieuse puissance de l'esprit humain, rachetée au calvaire. Tant que vous n'aurez pas compris la véritable puissance de la volonté, vous serez en danger, écrivit Ellen White à un jeune homme découragé qui ne manquait pas de bonne volonté, mais chutait sans cesse. Vous pouvez bien avoir la foi et faire des promesses tant que vous voudrez, mais celles-ci n'auront aucun effet si vous n'y ajoutez pas votre volonté. Vous ne devez pas tenir compte de vos sentiments, de vos impressions, de vos émotions, car ils ne sont pas fiables, poursuivit-elle, utilisant un langage semblable à celui des pilotes d'avions aveuglés par les nuages. Mais vous ne devez pas vous désespérer. Vous ne pouvez pas contrôler vos pulsions, vos émotions comme vous le voudriez, mais vous pouvez contrôler votre volonté. Nous trouvons ces écrits dans Message à la jeunesse, pages 151 et 152. Il vous appartient de soumettre votre volonté à celle de Jésus-Christ, et ce faisant, Dieu prendra immédiatement possession de vous et agira sur vous selon son bon plaisir. Toujours dans Message à la jeunesse, aux pages indiquées. Autrement dit, on se soumet à Jésus par le moyen de la volonté. Ici encore, je trouve une bonne illustration grâce au monde de l'aéronautique. Je suis en approche aux instruments au-dessus de l'aéroport international de Los Angeles. Une épaisse couche de nuages venue de la mer m'enveloppe et je n'arrive pas à distinguer les montagnes Saint-Gabriel. Mais je sais qu'elles sont quelque part sur ma gauche, à 3000 pieds au-dessus de mon altitude actuelle. Si je fais une erreur et vire un tant soit peu vers leur direction, je les heurterai dans moins de 3 minutes. Devant moi se trouve un 747. Derrière moi, dans mon sillage, un DC-10. À ma droite, un 727 tourne en cercle d'approche finale. Quelque part en dessous de moi vole un hélicoptère. Je ne peux voir aucun de ces appareils, mais leur présence m'est indiquée par un contrôleur au sol qui seul, par son radar, peut percer le brouillard et me guider en sécurité pour mon atterrissage. À ce moment, la radio se met à grésiller. Novembre 3-3 Delta, votre approche est dégagée. Piste 24 gauche, virez à droite à 230. Maintenez votre vitesse à 150 nœuds. Chaque fibre de mon être est en éveil, mains, pieds, yeux, oreilles. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, une erreur pourrait représenter plus qu'un simple inconvénient ou une simple gêne. Ma vie même est en jeu et je fais tout mon possible pour manœuvrer correctement. La boussole vire de 2 degrés à gauche, je corrige. L'altimètre se met en mouvement et suit une ligne invisible qui me dit si je suis trop haut ou trop bas. Mes yeux sont rivés dessus. Au fur et à mesure que les instructions arrivent par la radio, je les enregistre immédiatement et réponds au contrôleur que je suis ses directives. Au cours de mes années de pilotage, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Lorsqu'un pilote répond qu'il va suivre les instructions, je n'ai jamais entendu une seule fois un autre pilote intervenir sur la fréquence pour dire « Légaliste, mais qu'est-ce que tu fais? Cherches-tu à atterrir correctement ?» Remarquez encore autre chose. Je suis toujours pilote. Le contrôleur ne vient pas en traversant les airs se saisir du manche ou des manettes de gaz. C'est moi qui effectue les manœuvres, ajuste les gaz, visualise le tableau de bord. Toutes les manœuvres restent sous ma responsabilité et c'est moi qui fais atterrir l'avion. Qu'ai-je donc abandonné en suivant les ordres pour atterrir correctement? Ma volonté? J'ai laissé ma volonté aux mains de quelqu'un qui a une vue plus juste et plus claire que moi de ce qu'il faut faire. Il en est de même pour la vie d'un chrétien. Au moment de la chute, Adam et Ève ont perdu de vue leur horizon spirituel. Le brouillard du péché obscurcissait leur champ de vision, et nous voici maintenant mis en danger à cause de l'instabilité de nos émotions. De multiples dangers invisibles à nos yeux nous environnent. C'est là la raison pour laquelle Dieu nous envoie des instructions pour nous aider à nous conduire de la bonne manière. Le canal par lequel il nous les fait parvenir se nomme prophétie. Mais l'abandon de nos volontés à la sienne n'implique pas que nous n'ayons plus rien à faire dans nos vies de chrétiens. Comme pour le pilote, il nous reste beaucoup à faire. Dieu nous offre le sabbat. Sa grâce nous permet de l'observer. Mais comme l'a dit Mervyn Maxwell en schématisant, c'est nous qui passons la serpillière sur le sol et l'aspirateur sur les moquettes, qui cuisinons les repas le vendredi soir pour être prêts pour le sabbat jour. Ce ne sont pas les anges qui recousent le bouton qui est tombé ou écrivent nos tristes lettres d'excuses. Et ce n'est pas la grâce de Dieu qui achète la littérature qui nous permet de partager notre foi. Dans Hébreux 11, 7, il est dit que Noé est devenu héritier de la justice par la foi lorsqu'il a accepté les instructions de Dieu avant le déluge et qu'il a préparé l'arche pour sauver sa maison et lui-même. Croire seulement n'aurait pas suffi pour le sauver ou les protéger si cela s'était limité à la seule pensée intellectuelle. Il lui fallut montrer sa foi en joignant l'acte à la parole, et c'est ce que nous devons faire aussi. Cela n'implique pas qu'agir comme il le faut soit facile. Nous parlons allègrement de Noé avec la connaissance de ce qui s'est passé au cours des 5000 ans qui ont suivi, mais c'est oublier le ridicule, le coût incommensurable, les dizaines d'années de travail laborieux. Endurer cela pendant 120 ans simplement par la foi est un exemple classique de véritable abandon de la volonté. Tout était en jeu, son avenir, sa réputation, même sa fortune personnelle, en échange de quelque chose dont il ne pouvait même pas prouver la véracité. Cela n'a pas dû être facile. À la manière unique qui est la sienne, Paul nous parle du processus d'abandon de la volonté qui mène à la crucifixion du moi, et cette illustration est riche de sens. Lors de la crucifixion, le supplicié ne meurt pas rapidement. Il endure son agonie pendant des jours et des jours, immobilisé mais conscient, capable de crier sa douleur, de supplier qu'on le délivre et le descende de la croix. Il en est de même pour nous. Jour après jour, nous endurons le conflit entre le devoir et le désir. Notre moi supplie d'être libéré. Le seul moyen pour parvenir à se sortir de cette situation, c'est de se plonger dans la parole de Dieu, de barrer la route à toutes les tentations présentées par Satan, de passer une heure chaque jour à regarder Jésus, de renforcer ainsi sa foi, puis de l'affermir par notre témoignage aux autres. Il y a quelques mois, je donnais une interview à la radio locale d'un collège adventiste. Lorsque l'on coupa le micro, je parlais de ces quelques réflexions à celui qui m'avait interviewé, lui disant qu'à mon avis, l'un des rôles majeurs à jouer par l'homme était de tout simplement ignorer les douleurs engendrées par la crucifixion du moi. Il répondit « Peut-être bien, mais je trouve cela très difficile, extrêmement difficile ». Oui, certes, mais qui prétend que c'est facile? On a brûlé des gens sur des bûchers à cause de leur foi. Joseph est allé en prison pour elle, alors qu'en raisonnant un peu, il aurait pu trouver que la femme de Potiphar avait simplement besoin d'un peu d'amour. Daniel a risqué la mort pour sa foi, ainsi que ses 3 amis. Et pour elle, Jérémie et Jean, Étienne et Pierre, Hus et Jérôme, Martin Luther n'ont pas fait autre chose. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent les royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Hébreux 11, versets 32 à 34. Et voici au verset 13. C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Il n'est dit nulle part que vivre l'Évangile est facile, mais le langage d'Hébreux est plein de puissance et nous dit que le salut est possible, possible par la foi, une foi accompagnée d'œuvres. Quel genre de foi faudra-t-il pour achever l'œuvre de Dieu? La même qu'au commencement. Par un jour de printemps, l'horreur de la crucifixion déjà derrière lui, Jésus s'est levé du tombeau et a prononcé ces paroles puissantes « Je suis la résurrection et la vie ». En compagnie de quelques amis proches, il gravit un sentier rocailleux. Autour d'eux, tout rappelle les leçons qu'il a données. Une vigne pour illustrer les relations proches entre l'homme et Dieu. Un lys pour montrer la beauté de la simplicité. Un petit oiseau brun dont la destinée n'échappe pas à Dieu, même depuis son trône. Pendant le reste de leur vie, ils se rappelleront tous ces détails, la manière dont il agissait envers les enfants, la manière dont il priait. Et soudain, Jésus les quitte, attiré par une force encore plus grande que l'amour terrestre. Peut-être aurait-il dû savoir que cela allait arriver, mais il n'y était pas préparé, et il n'est pas facile de dire adieu à quelqu'un qui signifie plus que la vie. Et pendant de longues minutes, ils sont restés là, à regarder, muets, perdus et abasourdis. 3 ans et demi en présence de Dieu, et c'était terminé. Terminé? Pas vraiment. Une formidable pensée les traverse. L'homme qui a cheminé avec eux sur ce sentier de Béthanie, mangé avec eux encore ce matin, et leur a dit adieu. Cet homme partage maintenant le trône de son père. Maintenant, l'horizon s'éclaire, comme par un matin de printemps. Ils ont un ami sur le trône du Père. Leur foi s'envole de plus en plus haut et saisit la plus formidable vérité qui soit. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. C'est ce que Paul a écrit en Romains 8, 33-34. Saisissant cela par la foi, rien ne leur est plus impossible. Ils peuvent tout endurer, encore quelques jours, et ils se retrouveront d'un seul cœur réuni en un même endroit. Le Saint-Esprit les saisit, et immédiatement ils sont envahis d'une autre force venue du ciel, celle de témoigner aux autres. Ellen White l'a formulé ainsi. Nous trouvons la force de résister au mal dans l'action pour le service, dans Conquérant Pacifique à la page 105. Nous battre contre l'ennemi en cherchant à sauver les autres de l'emprise du péché nous rend capables de le vaincre ainsi. Peut-on dire que c'est notre résistance qui nous fait parfois trouver la tâche difficile? Un ami sur le trône. Un jour, nous aussi, nous saisirons les implications de cette vérité. Jésus est bien réel. Chacun de nos dons spirituels est une réponse à la foi. Demandez donc, demandez, vous recevrez. Le pardon des péchés, le Saint-Esprit, un caractère chrétien, la sagesse et la puissance d'accomplir son œuvre, tout don qu'il nous a promis, tout cela nous pouvons le demander. Il nous faut croire alors que nous l'avons reçu. Il est vrai que cela peut nous être accordé d'une manière inattendue, mais cela arrivera en temps et en heure lorsque nous en aurons le plus besoin. Nous trouvons ces passages dans « Éducation » d'Ellen White à la page 258 et dans « Message à la jeunesse » à la page 250. Voici maintenant un passage dans « Le grand conflit » pages 611 et 612. « Un jour, cela arrivera. » Au sein de l'adventisme, la Pentecôte se produira et le monde entendra rapidement le message du retour de Christ. L'œuvre de Dieu ne se terminera pas sans une grande manifestation divine semblable à celle qui a procédé à sa mise en œuvre. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, se hâteront de place en place pour proclamer le message venu du ciel. L'avertissement sera donné par des milliers de voix sur la terre entière. Des miracles seront opérés, les malades seront guéris et des signes et des merveilles accompagneront les croyants. Rappel, cela a été lu dans le Grand Conflit, pages 611 et 612. Lorsque cela se produira, le dernier obstacle au retour du Christ aura été levé. Rempli de la foi de Jésus, le peuple de Dieu sera prêt pour aller à sa rencontre. Et nous serons en route vers le ciel, chez nous. En route vers chez nous, au travers de la galaxie d'Orion brillante de lueurs vertes et rouges. Loin de ce que notre imagination peut concevoir, vers un lieu que les prophètes eux-mêmes ont eu du mal à décrire. Et là-bas se trouve un trône d'où coule une rivière de feu, et les anges y marchent sur des sentiers de pierre étincelante, entre guillemets, parce que cela se trouve dans la parole. Lorsque les rachetés entreront dans la cité, les anges formeront deux rangs, un couloir vivant, et avec émerveillement, ils regarderont passer les rachetés de la terre ayant survécu. Voici la lecture de deux passages dans Le Grand Conflit de Ellen White. Première lecture, page 677. Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Les plus grandes entreprises seront menées à bien, les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Deuxième lecture. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire, comme le cristal, sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vives que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Le paradis est réel, il est à notre portée, et je pense qu'il est temps de nous y rendre. Depuis plus de 150 ans, les adventistes rêvent de ce lieu, et 150 ans représentent une bien longue attente. Levons-nous et allons-y. C'est une terre pleine de délices, et nous sommes tout à fait capables de nous lever et de nous y rendre. Robert F. Kennedy a fait cette citation célèbre. Certains voient les choses telles qu'elles sont et demandent pourquoi elles sont ainsi. Je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je pose cette question, pourquoi pas? En effet, pourquoi pas? Pourquoi pas le ciel?